Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Sarah, vous êtes psychologue à Lausanne, en Suisse, et pratiquez ce que l'on appelle la psychologie intégrative. Vous offrez la possibilité à vos patients dans votre cabinet de découvrir des pratiques complémentaires qui permettent notamment d'être dans un état de conscience modifié. Vous pratiquez vous-même ces états depuis votre enfance, qui vous ont fait découvrir d'autres aspects de la psychologie humaine que celles enseignées à l'université, avec parfois des dimensions spirituelles. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer ce que sont ces états modifiés de conscience ?
Oui, bah déjà, merci d'être venu, d'avoir fait la route pour venir discuter avec moi, ça me fait très plaisir. Alors, les états modifiés de conscience, en fait, il y a une gamme très vaste de ces états modifiés de conscience parce que la conscience, justement, fonctionne sur un continuum. Et puis, quand on parle d'état modifié de conscience, on parle d'état modifié de conscience par rapport à notre état de veille ordinaire. Donc, typiquement, un état modifié de conscience, c'est un état qui est différent de notre état de veille ordinaire, qui est notre état de veille où on est vigile, où on est attentif à ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Par exemple, là, vous et moi, on est concentrés l'une sur l'autre, hein, sur le ici et maintenant. Et dans un état modifié de conscience, ce qui se passe, c'est que au lieu d'être focalisé sur l'extérieur, en général, il y a un renversement de l'attention vers l'intérieur. Donc, typiquement, par exemple, si on parle de l'état de transe hypnotique, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on ramène notre attention à l'intérieur de nous et on bascule dans un fonctionnement finalement qui est différent. C'est une autre façon d'être au monde. Et ces états modifiés de conscience, en fait, c'est des états qu'on vit régulièrement au cours de la journée parce que notre cerveau fonctionne sur une alternance de rythme. Donc on a, en général, on dit qu'on peut être concentré, attentif à notre environnement, aux tâches qu'on fait, environ 1h30, 2h, voilà, ça va dépendre un peu des personnes, ça va dépendre de l'état de fatigue, ça va dépendre de l'âge, de notre capacité à nous focaliser. Et puis après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une baisse de la vigilance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais étudiante, en fait, on m'a appris qu'il fallait que je me concentre sur mes révisions d'examen 1h30, 2h maximum. Et puis après, il fallait que je fasse une pause. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse de l'attention, une baisse de ma capacité attentionnelle, enfin de notre capacité attentionnelle, qui fait qu'on va moins pouvoir emmagasiner les informations, on est moins attentif, en fait. On assiste à une baisse de la vigilance. Et quand on est en état modifié de conscience, dans ces moments, ces interstices où il y a une baisse de la vigilance, il y a autre chose qui se met en place, on va avoir notre inconscient qui va avoir tendance à venir sur le devant de la scène. Donc moi, j'aime bien expliquer ça à l'aide un peu d'une image quand j'explique les fonctionnements de l'hypnose, parce que je travaille beaucoup avec l'hypnose, quand j'explique ça aux patients, c'est que si on prend, disons, l'idée qu'on ait une voiture, vous et moi, là, on a notre esprit conscient qui tient le volant. Et puis, à l'arrière-plan, sur le siège passager, on a l'esprit inconscient. L'esprit inconscient, c'est ce qui est en train de vous faire respirer là, qui s'occupe de la circulation sanguine, des battements cardiaques, de la digestion aussi notamment. Et puis, donc, ces deux aspects de notre psychisme, ces deux faces, elles sont toujours là, elles sont toujours actives. Par contre, il y en a une qui va être au premier plan et une au second plan en fonction de l'état de conscience dans lequel on est. Quand on rentre, par exemple, en transe hypnotique, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que l'esprit conscient disparaît, mais par contre, il y a un renversement qui se fait. Donc, le conscient lâche le volant, la machine, si on peut dire, il va à l'arrière de la voiture, si on reprend cette image-là, et c'est l'esprit inconscient qui vient prendre le volant. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'on sait que donc, notre psychisme a deux facettes, pour le dire de façon un peu simplifiée. L'esprit conscient, qui est l'esprit analytique, rationnel, qui va faire des prédictions, qui va analyser, qui va formuler des hypothèses, et puis l'esprit inconscient qui, lui, est beaucoup plus sensitif, beaucoup plus dans le ressenti, dans la symbolique, dans l'intuition même aussi. Et donc, ces deux faces de notre psychisme composent en fait notre esprit humain. Et en fonction des situations, bah voilà, ça va être plutôt, la plupart du temps, c'est l'esprit analytique hein, qui est présent. On vit aussi dans une société qui nourrit beaucoup le mental, hein, l'analyse, donc c'est assez normal vu l'environnement dans lequel on est immergé. Et puis, à de courts moments, on va avoir l'inconscient qui vient sur le devant de la scène. Et dans le travail thérapeutique, pourquoi est-ce qu'on veut convoquer l'inconscient? C'est parce que l'inconscient, je pense que vous avez déjà vu ces images, ces photos d'iceberg. On a la partie qui est à l'extérieur de l'eau de l'iceberg, hein, c'est une petite, en général une petite surface. Et puis, il y a toute la partie qui est immergée, en fait, qui est une surface beaucoup plus grande. Et on a tendance à dire que la partie qui est au-dessus de l'eau, c'est l'esprit conscient. Et la partie qui est sous l'eau, c'est l'esprit inconscient. Et cette partie-là, elle est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus vaste, justement. Donc, elle contient beaucoup plus d'informations, d'apprentissage, tous les apprentissages que vous avez faits depuis votre naissance, les expériences agréables, les expériences moins agréables. Et donc, on part du principe qu'à certains moments du travail thérapeutique, ça peut être intéressant de descendre, si vous voulez, on parle de descente, mais encore une fois, c'est imagé, hein, parce qu'on ne descend pas vraiment, dans cette partie inconsciente pour pouvoir trouver des solutions créatives à nos problèmes, peut-être pour pouvoir libérer certains blocages, ramener une forme de circulation comme ça dans cet inconscient, qui permet de décristalliser certaines, peut-être certaines peurs, certains blocages, justement. Et c'est pour ça qu'on convoque l'inconscient souvent dans certaines approches thérapeutiques ou psychothérapeutiques. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Donc on est tous soumis à ces fluctuations de la conscience, en fait, de l'attention. Et on le voit aussi quand on s'endort, en fait, au cours du processus d'endormissement, on traverse une phase qui s'appelle la phase hypnagogique, comme hypnose, hein. Et dans cette phase-là, en fait, on vit vraiment un état de transe. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça parce qu'ils s'endorment très vite et ils ne prêtent pas attention à ces perceptions-là. Et puis d'autres personnes, soit parce que ça leur est naturel, soit parce qu'elles ont eu un entraînement, qu'elles font par exemple beaucoup de méditation, beaucoup de pratiques d'intériorisation comme le yoga, des choses comme ça, elles vont peut-être avoir plus conscience de ce basculement en fait de la conscience dans cet état hypnagogique et puis gentiment dans le sommeil. Et puis quand on se réveille, on va passer par une phase qui s'appelle hypnopompique, qui est assez similaire en fait à la phase hypnagogique, quoique un peu différente parce qu'elle est beaucoup plus, c'est plus vécu comme un espace spacieux quand on va expérimenter ces états-là, plutôt que comme un espace où il y a par exemple des images qui peuvent venir, des sons, certaines sensations kinesthésiques, par exemple flotter, s'enfoncer dans le matelas. Donc il peut y avoir tout un tas de phénomènes comme ça un peu étranges quand on vit ces états-là. Et puis quand on s'entraîne en fait à explorer ces états-là, on va pouvoir percevoir tout un tas de nuances, de subtilités qui sont très intéressantes en fait à explorer parce qu'elles disent quelque chose de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre psychisme et de ce qu'on est en tant qu'être humain en fait. Et donc ces états-là, c'est des états crépusculaires qui se situent entre la veille et le sommeil. L'hypnose par exemple, c'est pas du sommeil, c'est un état d'éveil, mais un état d'éveil particulier, où vous êtes justement entre l'état vigile, où vous êtes attentif à votre environnement, et en même temps immergé dans une expérience intérieure. Donc on est un peu comme un équilibriste sur un fil, entre les deux, en fait. Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a différents degrés de conscience modifiée? Parce qu'on entend parfois certaines formes d'hypnose avec des ondes bêta, etc.
Oui.
Est-ce qu'il y a différents degrés?
Alors, en fait, l'état bêta, c'est l'état de veille. C'est l'état de... Si on mesure comme ça les ondes cérébrales, c'est équivalent à l'état de veille ordinaire, donc l'état vigile. On parle en principe d'état alpha pour parler des états de transe les plus communs, donc l'état de transe hypnotique, mais il y a également l'état sophroliminal, je crois que les sophrologues appellent ça comme ça, qui sont des états extrêmement similaires. Hein. Je pense qu'au niveau des mesures qu'on pourrait prendre, des ondes cérébrales, on est un peu dans la même chose. Et puis après, on a d'autres états, par exemple l'état delta ou l'état theta, qui mesurent d'autres choses, qui représentent d'autres niveaux de conscience, en fait. Donc c'est vrai que quand on travaille sur les états modifiés de conscience, en général, on va plutôt se référer à l'état alpha, qui est assez connu, qui est donc un état de relaxation, en fait, de détente, qui permet une forme d'intériorisation. Donc oui, il y a différents niveaux de profondeur. Moi, j'explique souvent aux personnes à qui je guide en hypnose, j'allais dire à qui je fais l'hypnose, mais je fais absolument pas d'hypnose, c'est pas moi qui fais quelque chose. Quand on travaille avec l'hypnose en tant que thérapeute, en fait, on va guider la personne dans l'état modifié de conscience, mais on ne peut pas lui faire ou la forcer à quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme le sommeil, même si ce n'est pas du sommeil, encore une fois, l'hypnose, c'est un état intermédiaire, on peut créer les conditions adéquates pour que cet état survienne, mais on ne peut pas le forcer. Donc, c'est pour ça que je me suis reprise, parce que c'est important, en fait, c'est des subtilités qui sont importantes pour comprendre le fonctionnement de ce type de pratique. Donc, ce que je dis souvent aux personnes avec qui je fais de l'hypnose, avec qui on va partir dans cet état modifié de conscience, c'est que c'est un peu comme un plongeur, en fait, qui va plonger. Il y a les états de transe moyenne, donc on est juste sous la surface. Légère, pardon, on est juste sous la surface, ensuite moyenne, et puis après les états plus profonds. Et puis en fait, la transe, c'est un processus dynamique, c'est pas un processus statique, vu que la conscience, elle est sur un continuum, donc on ne peut pas dire tac, là ça s'arrête, là ça commence. Donc typiquement, dans une séance d'hypnose, on peut guider la personne, voilà, à l'intérieur d'elle-même, et puis peut-être qu'au début, elle sera en transe légère, puis tout d'un coup, elle peut aller en transe moyenne ou profonde. Et puis avec l'entraînement, en fonction des dispositions personnelles, il y a des gens qui tout d'un coup vont tac, 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 directement descendre en transe profonde. Et au cours d'une même séance, par exemple une séance de 20 minutes, ça peut bouger. Tout d'un coup, la personne peut être en transe moyenne, il y a quelque chose qui la fait revenir un petit peu plus à la surface, entre guillemets, ça peut être un bruit de l'environnement ou un inconfort physique ou quelque chose qui tout d'un coup attire aussi son attention, qui frappe son esprit. Et puis après, elle peut redescendre. Donc voilà, il y a des mouvements. Dans une même séance, on peut avoir différents mouvements, différents degrés de profondeur. Je pense que ce qui est aussi important de dire par rapport à ces états de transe-là, donc là en l'occurrence, moi je me réfère au cadre de l'hypnose parce que c'est vraiment celui que j'utilise le plus dans la pratique, dans ma pratique, ben voilà, en cabinet ou même en milieu hospitalier, c'est que la profondeur de la transe n'est pas représentative de la qualité du travail qui peut être fait. Vous n'avez pas besoin d'être en transe profonde et de vivre un véritable spectacle son et lumière pour pouvoir bénéficier de cet état-là, en fait. Et votre capacité à aller à une certaine profondeur de transe, elle va dépendre de différents facteurs. Votre capacité à vous concentrer sur le moment, votre niveau d'énergie ou de fatigue, votre capacité à lâcher d'une certaine manière, parce que la transe, c'est aussi une forme de lâcher prise, hein, de lâcher vraiment l'esprit analytique au profit de cet esprit plus intuitif, plus sensitif, comme ça, plus symbolique, qui fonctionne avec des images, des métaphores, qui recèle une certaine poésie, en fait, hein. Donc ça, je trouve que c'est important de le dire. On peut, par exemple, si on fait référence à la gestion de la douleur, moi je fais beaucoup de gestion de la douleur dans le milieu hospitalier, il n'y a pas besoin d'aller en transe profonde pour avoir un soulagement. On peut être en transe toute légère, et puis déjà, on perçoit une modification, en fait, de nos perceptions, et puis ça procure un soulagement. Donc ça, en fait, c'est l'esprit de la personne qui va décider, qui va faire en fonction de ses capacités du moment. Et puis, peut-être dire que tout le monde peut rentrer dans ces états-là, hein, puisque c'est des états naturels de notre cerveau, de notre psychisme. Par contre, en fonction des circonstances, ça va être plus ou moins facile. Par exemple, au cours de l'âge, hein, du processus de vieillissement, on constate une baisse de la capacité attentionnelle qui est tout à fait normale, hein, c'est quand même, on est quand même soumis à une forme de déclin cognitif, et puis on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Il peut aussi y avoir tout d'un coup des situations où, par exemple, il y a une maladie, hein, qui va créer un déclin cognitif. Et dans ce genre de situation, l'accès à l'état de transe va être plus compliqué. Mais on peut tout à fait faire de l'hypnose sur des personnes très âgées. Moi, ma patiente la plus âgée avec qui on a travaillé en hypnose, elle avait 93 ans. Donc 93,
93.
93, et elle allait en transe, mais comme ça, quoi. C'était juste génial. Donc ça, c'est pas non plus un frein, mais ça peut. Donc tout ce qui touche aux troubles, par exemple cognitifs, une maladie ou un accident, des séquelles, etc., ça peut limiter l'accès à l'état de transe. Mais après, bon, voilà, c'est à voir au cas par cas. La médication aussi. Alors là, c'est un peu à double tranchant. Ça, je constate en milieu hospitalier. À la fois, ça peut être un frein si l'esprit n'arrive pas suffisamment à se focaliser, Donc, c'est compliqué d'avoir accès à l'État. Et en même temps, ça peut être quelque chose de facilitant, notamment si la personne est un petit peu comme ça, relaxée. Ça peut lui permettre, lui faciliter l'accès à l'État de transe. Donc, c'est un peu... C'est les deux, en fait, en fonction des situations. Et puis après, ce qui est très important aussi, c'est de se sentir à l'aise avec la personne qui vous guide dans cet état. Si vous êtes en confiance avec la personne, s'il y a une alliance qui s'est créée, donc un bon contact, que vous vous sentez en sécurité et que vous avez envie de vivre l'expérience, que vous êtes ouvert à vivre l'expérience, eh ben ça ira tout seul, vous irez en état d'hypnose. Mais à savoir que parfois, les gens, ils sont dans l'état d'hypnose et puis ils ne se rendent pas compte de ça et ils ressortent de l'état en me disant « mais j'ai pas l'impression d'avoir été en transe ». Mais nous, en fait, en tant que hypnothérapeute, on peut tout à fait voir si la personne est en transe ou pas parce qu'il y a des signes physiologiques qui sont caractéristiques de ces états de transe. Alors, par exemple, on a les paupières qui papillonnent, donc comme dans le sommeil paradoxal. Donc, ça s'appelle les mouvements REM, hein. Rapid Eye Movement. Et puis, donc ça, c'est un signe. On a, par exemple, la coloration de la peau qui peut changer. La peau peut devenir plus pâle ou plus rouge en fonction du métabolisme, je pense, qui s'adapte à l'état modifié de conscience. On peut avoir la déglutition aussi qui change. On entend la personne déglutir. Le rythme respiratoire change, hein, les trois quarts du temps quand on est en état d'hypnose. Donc, en général, il se ralentit, il devient plus profond, mais il peut aussi devenir plus saccadé. Ça peut dépendre aussi de ce que la personne vit dans cet état, parce que bien souvent, elle va traverser toute une palette d'émotions aussi, hein, qui peuvent être agréables ou moins agréables en fonction de ce sur quoi on travaille. Il y a aussi des petits mouvements idéomoteurs. Je ne sais pas si, je pense que ça arrive à tout le monde quand on s'endort trop vite, par exemple. Des fois, on a la jambe qui fait un petit coup ou le bras. Donc ça peut arriver en état d'hypnose, en fait. Souvent, ça arrive quand on bascule tout d'un coup un petit peu brusquement dans l'état de conscience ou que l'état, dans l'état modifié de conscience, ou que l'état s'approfondit, en fait. Donc ça, c'est un peu les signes principaux que je vois. Il peut y en avoir un ou plusieurs, ça va dépendre. Il n'y a pas besoin de les avoir tous. Certaines personnes vont avoir plutôt tel type de signe, d'autres tel autre type. Ça dit rien, pour moi, ça dit rien de la qualité de la transe et de l'expérience vécue. Mais si je vois aucun de ces signes, si tous ces signes sont absents, ça veut dire que la personne n'est pas en état modifié de conscience. Donc on apprend très vite à le voir. Il y a aussi le fait d'être tout d'un coup complètement relâché. Vous voyez, il y a une espèce de fixité du corps. Ça, c'est un signe de transe. Ou alors de l'agitation motrice. Hein. Je veux dire, la personne bouge beaucoup. Si on fait de la transe les yeux ouverts aussi, il peut y avoir, on va voir que le regard est fixe comme ça, un peu lointain, comme ça, on le perçoit dans le regard, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, que la personne est là, mais sans être complètement là. Mais en principe, on fait plutôt de la transe les yeux fermés, en tout cas en hypnose thérapeutique, parce que quand vous fermez les yeux, ça envoie déjà un signal à votre cerveau que vous vous intériorisez, donc d'un point de vue mécanique, comme ça, ça facilite le processus. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est menaçant de fermer les yeux, donc dans ce cas-là, on leur dit, bah, vous gardez les yeux ouverts. L'idée, c'est peut-être juste d'avoir un regard un peu flou, de fixer un point. Ce ne serait pas de me regarder directement parce que là, ça maintient dans la haute attention, dans le contact. Donc, ça barre un peu l'accès à l'état de transe. Mmh. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus.
Alors justement, que permettent ces états qui est difficilement accessible dans un état de veille classique? Pourquoi on utilise les états modifiés de conscience? Mmh. Et notamment pour les gens qui ont des traumatismes, mm-hmm. des névroses qui les empêchent au quotidien. Mm-hmm. Pourquoi on va aller chercher cet état-là?
En fait, cet état, comme je le disais tout à l'heure, il permet de fonctionner différemment. C'est une autre manière d'être au monde et d'être à soi. Et en fait, quand on va dans un état modifié de conscience, hein, comme le permet l'hypnose, on est davantage en contact avec nos ressources parce qu'on est davantage relié à nous-mêmes, en fait. Et donc, je le disais tout à l'heure, l'inconscient, c'est un immense réservoir de tout un tas de choses. Hein. Fut un temps, on le voyait comme la boîte de Pandore, comme étant finalement le réceptacle de toutes nos névroses, de toutes nos fragilités, de tous nos traumas, etc. Mais l'inconscient, il recèle aussi une quantité de ressources, de forces. Hein. Je parlais d'apprentissage tout à l'heure. Donc, de passer dans cet état d'intériorisation, ça va permettre de contacter ces forces. Et puis surtout, ça offre un changement de perspective aussi, vous voyez. Pour des gens qui sont très analytiques, qui ne sont pas forcément en lien avec leurs affects, leurs émotions, le retour à l'état de transe, enfin le contact avec leur intériorité peut leur permettre de renouer d'une façon qui est peut-être un petit peu plus douce avec leurs émotions, en fait. Parce que l'hypnose, c'est une pratique psychocorporelle. Hein. Ces états modifiés de conscience, ils sont très en lien avec le corps. Les émotions, elles passent dans le corps, elles se cristallisent dans le corps. Et on sait d'ailleurs qu'il y a pas mal d'approches qui travaillent avec le corps. Le corps et l'esprit étant intimement reliés. Et en travaillant sur le corps, on peut, par exemple, débloquer hein, certains blocages, comme ça, certains traumas aussi. Donc l'hypnose, c'est ça, c'est une approche psychocorporelle, en tout cas moi je la considère comme telle, et le fait de rentrer comme ça à l'intérieur de soi, ça permet de se sentir de l'intérieur, et puis de voir peut-être sous un autre angle les situations traumatisantes qu'on a pu vivre, et également de voir toute la richesse que ça nous a permis d'acquérir finalement, par rapport à notre expérience de vie. Parce que moi, je crois profondément que toute crise, que tout événement douloureux est porteur de changement, en fait, est porteur de lumière. Seulement, bah, pour pouvoir activer cette capacité à changer, à évoluer, à traverser hein, toutes les vicissitudes de la vie, du quotidien, se remettre en lien avec soi, voir clairement ce qui se passe en nous, eh ben c'est profondément aidant. Mais je pense que c'est important de dire que c'est pas une panacée, hein, ces pratiques-là, loin s'en faut. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et puis qui me disent « Ah, ben, j'aimerais faire une séance d'hypnose. » Moi, je crois pas à la petite séance d'hypnose magique, vraiment pas, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, moi, c'est pas des demandes que je prends en considération. Je pense que pour que le travail avec ces approches psychocorporelles, notamment l'hypnose, hein, ces approches qui vont modifier l'état de conscience, qui vont favoriser l'intériorisation pour que ce travail soit efficace, soit constructif, ça doit prendre place dans quelque chose de plus vaste, qui est vraiment un travail thérapeutique ou psychothérapeutique, où on fait fonctionner en fait les deux faces de notre esprit, autrement dit notre capacité d'analyse, de prendre du recul, de se questionner, de se remettre en question, parce que le travail thérapeutique c'est ça, c'est beaucoup se remettre en question, hein. C'est ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire de notre vécu, de qui l'on est, et puis en même temps, pour qu'il y ait finalement, je trouve, un travail, une avancée harmonieuse, c'est important aussi de prendre en compte cet aspect justement qui est plus de l'ordre du sensitif, du ressenti en fait. Et pour moi, une thérapie ou une psychothérapie qui serait bien menée, c'est une psychothérapie qui englobe les deux en fait. Parce qu'on est des êtres qui avons plusieurs facettes, plusieurs peut-être même dimensions, en tout cas moi je le crois. Et je pense que le travail de guérison, le travail de développement personnel, le travail d'avancer sur soi se fait à différents niveaux, en fait. Et puis après, vous avez toutes sortes de spécialistes. Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de tout faire avec la même personne. On peut aussi beaucoup faire ce travail, une partie du chemin, on le fait seul aussi. Hein. Il y a des gens qui n'auront pas besoin d'aller voir un thérapeute. C'est très personnel, hein, ce type de démarche-là. Ça va dépendre des uns et des autres. Il y a des gens qui vont vraiment être dans un besoin d'avoir recours à quelqu'un d'extérieur pour voir clair en eux. Ça peut toujours être utile, mais ce n'est pas forcément avec un thérapeute, parler des fois avec des amis, des proches qui nous connaissent bien, ça peut être très aidant aussi, hein, donc je pense que ça c'est pas à négliger. Mais voilà, quand vous allez voir un thérapeute, bah, c'est quelqu'un qui est neutre, qui ne vous connaît pas, qui n'est pas dans votre cercle privé, et donc c'est aussi plus facile de faire ce travail peut-être de distanciation émotionnelle, et puis de pouvoir être ouvert à d'autres perspectives en fait.
Et du coup, quand on va voir un thérapeute qui va aussi nous faire des séances d'hypnose, oui. J'imagine qu'il faut qu'il soit suffisamment, perspicace pour nous guider de la bonne manière aussi dans cet état. Oui. Parce que l'idée, si je comprends, c'est d'essayer de voir la situation qui nous pose problème peut-être différemment, avec oui. plus de hauteur, oui. aller voir des ressources qu'on n'avait peut-être pas vues. Mais pour ça, il faut être bien guidé.
Absolument, mais je parlais tout à l'heure d'alliance, hein. L'alliance thérapeutique c'est vraiment quelque chose de fondamental, donc l'alliance qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir à l'aise avec la personne, de se sentir en confiance, de sentir que cette personne peut nous soutenir dans notre processus d'évolution, et inversement, hein, pour le thérapeute doit pouvoir sentir que la personne est ouverte, qu'elle est dans la confiance, ça doit circuler dans les deux sens, et c'est en fait cette bienveillance mutuelle, cette envie d'avancer ensemble, de collaborer ensemble, qui va créer une alliance plus ou moins solide. Et les recherches le montrent bien, la base de toute thérapie et psychothérapie réussie, c'est l'alliance, c'est pas forcément la pratique. Alors après, on sait qu'il y a des outils, des approches, hein, voilà, il y a différentes écoles de pensée en psychologie, psychothérapie. Et puis après, ben voilà, il peut aussi y avoir des dissensions, des, des oppositions. Mais je crois vraiment que ce qui... en tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est que ce n'est pas tellement les outils. Les outils, c'est un plus. Mais ce qui va vraiment être guérisseur et soutenant, c'est le fait d'être face à quelqu'un où on se sent compris, où on sent que la personne peut nous aider à prendre de la hauteur, où on sent que la personne, donc le thérapeute, peut offrir un espace sécur, un contenant d'une certaine façon, qui est stable, qui est solide, dans lequel on peut tout d'un coup bah, voilà, avoir des débordements émotionnels sans que le bateau chavire, en fait, vous voyez. Donc, je pense aussi qu'après, c'est beaucoup... si on regarde les états modifiés de conscience, l'hypnose, on doit suivre une formation. Hein, je veux dire, on peut lire des livres. À l'heure actuelle, on a accès à la formation d'une façon très facile, très aisée. Donc, on peut tout à fait, par exemple, apprendre l'auto-hypnose seul avec un bon livre, avec de bonnes vidéos. C'est facile. Moi, j'avais fait ça à l'époque. Hein, je veux dire, je suis très autodidacte. Donc, même avant ma formation en hypnose, il y avait des tas de choses que je connaissais de l'hypnose. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une formation. Et la formation, en fait, va vous apprendre à rentrer en lien avec la personne et à la guider. Là, en l'occurrence, on est dans l'état d'hypnose. Donc, il y a aussi un phrasé. En hypnose, le langage est très important parce que ça passe principalement par le verbe. Donc, ça va être de s'approprier ce langage hypnotique qui est bien souvent un langage très imagé, très métaphorique, et de pouvoir jouer avec ça, de voir qu'est-ce qui peut parler à la personne. Donc, souvent, on discute un petit peu avant de voir qu'est-ce qui pourrait éveiller comme ça son intérêt, faire sens pour elle. En hypnose, on utilise beaucoup de métaphores de la nature. Parce que finalement, l'être humain, on est issu de la nature, hein, on est en lien avec la nature. Et ça parle beaucoup à l'inconscient, à l'imaginaire. Donc, on va avoir tendance à utiliser comme ça des métaphores pour faciliter le travail hypnotique. Par exemple, si on veut aider une personne à se délester de certains poids, de certaines choses qui sont trop lourdes, on pourrait tout à fait l'emmener dans une visualisation. Elle est au bord peut-être d'une plage, il y a une barque, elle met tous les soucis dans la barque et puis elle laisse aller en fait les soucis pour pouvoir en fait se détacher de ça. Mais encore une fois, si vous faites ce travail-là et qu'il n'y a pas tout un travail en amont, une démarche personnelle de vraiment comprendre ce qui se passe pour soi, qu'est-ce qui fait qu'on retient, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher, etc., ça ne va pas donner de résultat. En tout cas, à mon sens, c'est un travail en superficie qui n'est pas forcément très pertinent. Ça peut colmater les trous à un moment, comme ça, c'est un peu un sparadrap sur une plaie. Mais le vrai travail, il est autre. Il se fait vraiment dans une démarche...
plus globale, plus profonde.
Exactement, ouais. Mmh.
Alors, ce qui n'est pas conventionnel, entre guillemets, c'est que vous pratiquez aussi le Reiki. Mmh. Donc, vous êtes psychologue, vous pratiquez l'hypnose et aussi le Reiki. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette pratique? Et en fait, ce qu'elle produit, ce que vous avez constaté, peut-être sur vous, j'imagine, et puis sur vos patients.
Mmh. Oui, alors c'est vrai que le Reiki, contrairement à l'hypnose, qui est vraiment bien documentée maintenant sur le plan scientifique, hein, je veux dire, c'est une approche complémentaire, mais elle est rentrée dans les mœurs des pratiques thérapeutiques. Hein, à l'heure actuelle, je pense que on peut expliquer rationnellement, scientifiquement parlant, le fonctionnement de l'hypnose. Alors, il y a des choses, peut-être, on n'a pas tout compris, mais on a déjà compris beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout le cas du Reiki, parce qu'on est effectivement dans une approche complètement non conventionnelle qui fonctionne sur un autre paradigme, qui est un paradigme qui est plutôt oriental, à savoir que notre corps, en fait, est traversé par tout un tas de canaux qui laissent passer un flux énergétique, un flux d'énergie en fait, et que donc on serait des êtres à la fois physiques, de chair, de sang, mais aussi des êtres plus subtils. C'est pour ça qu'avant je parlais d'approches un peu dimensionnées qui seraient traversées comme ça par de l'énergie, qui serait de l'énergie. Donc si on prend l'étymologie du mot Reiki, le ki en fait c'est l'équivalent du chi des Chinois, donc c'est l'énergie, c'est le souffle vital, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous anime en fait dans ces visions-là du monde. Et puis le Rei, ça voudrait dire spirituel, universel. Donc, si on appond les deux parties du mot, on aurait quelque chose comme énergie vitale, spirituelle, à l'origine de tout, en fait. Et donc, le Reiki, c'est une approche qui est d'origine japonaise et qui vise, en fait, à poser les mains sur le corps du receveur, donc du patient, du sujet. Donc, le donneur va imposer les mains, c'est une pratique d'imposition des mains qui vise à rééquilibrer la circulation de l'énergie dans le corps et donc aussi à décristalliser certains blocages qui viendraient par exemple d'émotions qu'on n'a pas digérées pour relancer en fait, relancer la machine finalement et retrouver une forme d'équilibre en fait. L'idée même du Reiki, c'est de rééquilibrer en fait l'être humain, le corps, l'esprit. Après, ce qu'il y a, c'est que donc là, on parle du Reiki, donc c'est une pratique parmi tant d'autres, hein. Vous en avez tout un tas d'autres qui fonctionnent un peu sur le même principe. Et après, encore une fois, vous avez des écoles de pensée avec des choses qui se retrouvent, des points communs, puis d'autres éléments plutôt de dissension ou de désaccord. Moi, ce que j'aime bien avec le Reiki, en tout cas comme je pratique cet outil-là, c'est que c'est extrêmement simple en fait. Moi, je l'utilise vraiment d'une manière très dépouillée. Donc, l'idée, c'est de poser les mains sur son corps. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai été formée à cette approche quand j'avais 22 ans. Et j'étais tombée par hasard, en fait, sur un petit livre dans une librairie. Puis, ça m'a tout de suite intriguée parce que je suis fascinée, en fait, par ce paradigme oriental qui veut que l'être humain soit multidimensionnel. Et moi, le concept d'énergie, j'avais déjà eu des expériences comme ça dans ma jeunesse, notamment au niveau des mains, hein, je veux dire, de sentir comme ça des choses énergétiques dans les mains. Donc ça m'a tout de suite parlé. Et en fait, le Reiki, c'est une pratique qu'on peut utiliser aussi sur soi. Donc l'idée, c'est de poser les mains sur certains endroits du corps et puis d'être réceptif en fait au rééquilibrage que le travail énergétique avec les mains à poser sur le corps va faire. Donc typiquement, par exemple, moi, si je mets mes mains comme ça, au bout d'un moment, je vais sentir très rapidement, ça va dépendre des situations, de comment je me sens, hein, c'est pas toujours les mêmes ressentis, une sorte de chaleur, quelque chose comme un courant. Chez moi, c'est très kinesthésique, hein, donc je ressens vraiment l'énergie de façon kinesthésique, donc soit une vibration, soit un courant, je peux sentir comme un cours d'eau à l'intérieur de moi, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut vibrer, il peut y avoir plein de choses. Je le précise parce qu'il y a des gens qui ont des perceptions plutôt visuelles, donc ils vont plutôt voir des phosphènes en fait, donc des taches colorées et lumineuses, ou qui vont même pouvoir avoir accès à certaines images à caractère visionnaire, symbolique, hein. Il y a des gens qui voient par exemple beaucoup des images de nature. Encore une fois, hein, je disais, on est en lien avec la nature, donc l'inconscient, je pense que c'est des éléments comme ça archétypaux qui sont dans tous nos inconscients à chacun. Et probablement qu'en faisant du Reiki, on se connecte à ça. Ce que je constate, en fait, c'est que la pratique du Reiki nous met dans un état modifié de conscience, un état de transe qui est très similaire, en fait, à l'état d'hypnose. Vous savez, il y a différentes pratiques, mais ces pratiques-là, quand on s'observe bien dans ces différentes pratiques, que vous fassiez de la sophrologie, de l'hypnose, du yoga, voilà, du Reiki ou même de l'acupuncture, hein, parce que moi ça me le fait aussi en acupuncture, mais comme à plein d'autres personnes, on est de toute façon encouragé à s'intérioriser. Donc finalement, c'est très difficile de dire la différence au niveau de l'état de conscience, hein, je ne parle pas au niveau de forcément du but de la pratique ou de ce qu'on fait, mais c'est très difficile de voir finalement la différence de l'un à l'autre. Par exemple, moi, quand je suis en transe hypnotique, que j'ai une collègue qui me guide en hypnose, mon ressenti intérieur va être extrêmement similaire à ce que je ressens quand je reçois du Reiki par une autre personne ou que je me le fais moi-même ou un autre soin énergétique. Je parlais de l'acupuncture. Moi, quand je reçois une séance d'acupuncture, je suis très clairement en état modifié de conscience et je sens des modifications en fait de ma perception. Ce qui est intéressant avec le Reiki, je ne l'ai pas dit pour l'hypnose, mais ça se recoupe hein, justement parce que ça modifie l'état de conscience, c'est que bien souvent, on va constater une altération du schéma corporel de comment on se sent dans notre corps en fait. Donc tout d'un coup, quand vous recevez une séance de Reiki, vous pourriez par exemple ne plus savoir où sont vos jambes, où sont vos bras. C'est un peu la même chose que quand on s'endort ou quand on se réveille. Des fois, on ne sait plus trop comment on est positionné, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être surprenant à vivre. Certaines personnes trouvent ça désagréable. Moi, j'ai plutôt tendance à trouver ça très agréable, mais c'est personnel. Et donc, du coup, quand on reçoit ces traitements Reiki, il peut se passer tout un tas de phénomènes plus ou moins étranges. Ça peut être justement avoir l'impression de flotter, la pression que souvent les gens me disent: ah, mais je pensais que vous étiez au niveau de ma tête et en fait vous êtes au niveau de mes pieds. Donc là, on voit bien l'altération du schéma corporel. On perd les repères en termes de proprioception, on perd nos repères habituels et c'est caractéristique de la transe. Et vous allez retrouver ça dans tous les états de transe. Par contre, ça ne va pas toujours être vécu comme tel. C'est comme finalement les signes physiologiques de transe qu'on peut observer. Il n'y a pas toujours les mêmes. Tous ne sont pas toujours présents. Mais c'est des signes de transe, en fait. Et ce que je trouve intéressant avec le Reiki, c'est que c'est un peu plus corporel que l'hypnose, au sens où on pratique le toucher. On sait que le toucher en soi, c'est très thérapeutique. Il y a quelque chose d'enveloppant, de sécurisant. On sait maintenant que par exemple un enfant qui n'est pas suffisamment touché, câliné, ne va pas se développer correctement. Moi, je trouve complètement incroyable quand on y pense, en fait, de cet impact du toucher sur le corps. Et donc, prévoir les effets d'une séance de Reiki, c'est difficile. C'est difficile de vous dire exactement, clairement, ce qui peut se passer, parce qu'en fait, c'est un peu, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. En principe, ce que les gens décrivent quand ils reçoivent du Reiki, et c'est ce que je constate aussi quand je m'en fais à moi ou quand j'en reçois, c'est une sensation de détente très profonde. Souvent, on peut être au bord de l'endormissement, forcément, on est en transe. Des fois, les gens s'endorment aussi. Et puis, une sensation d'enveloppement, ça revient énormément, d'être comme dans un cocon. Donc, il y a quelque chose de très rassurant, de très contenant, de très sécurisant. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont vécu certains traumas, par exemple des abus sexuels, ça peut être une excellente manière de retrouver une forme de lien avec son corps, d'être connecté à
avec
soi.
Avec quelqu'un avec qui on a confiance, bien sûr.
Absolument.
Sinon, j'imagine que ce n'est pas possible.
Non, 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 absolument. Non, non, c'est pour ça, hein, l'alliance, c'est la base de tout. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de poser les mains sur le corps. Hein, pour une personne qui aurait des espaces de son corps qui seraient vraiment très sensible, très vulnérable, on peut mettre les mains à quelques centimètres au-dessus. Et c'est ça, donc c'est la partie un peu mystérieuse du Reiki. Là, quand on parle du toucher, on pourrait dire, bon bah voilà, c'est le toucher thérapeutique, hein, on sait, les études montrent que le fait de toucher, c'est un effet calmant sur le système nerveux, etc. Mais en fait, quand on met les mains à quelques centimètres, les gens sentent. Les gens sentent quelque chose, en fait. Et souvent, des gens qui ne croient pas du tout à ce genre de choses, qui trouvent ça un peu farfelu, me disent, mais j'ai senti des trucs bizarres, quoi. Et c'est très intéressant, moi je le constate avec le système digestif, bien souvent je mets les mains au-dessus, parce que quand je commence la séance, en général je me mets au niveau du plexus, et moi, ça c'est très personnel, hein, les différents praticiens vont faire un peu en fonction de leur préférence. Moi je commence toujours avec les mains au-dessus, parce que j'ai plus de sensations, en fait, dans les mains qui m'indiquent où je dois aller sur le corps, en fait. Donc c'est une espèce de connaissance intuitive qui vient par l'intermédiaire de mes mains qui agissent un peu comme des antennes, et je peux sentir des zones de chaud, de froid, des picotements. Et ça va m'indiquer que c'est des zones sur lesquelles je dois travailler. Après, moi, je ne fais pas d'interprétation à la sauvage de me dire « Ah bah tiens, ça veut dire ci, ça veut dire ça. » Je laisse simplement faire. C'est pour ça que je disais que je pratique un Reiki très dépouillé. D'ailleurs, je ne suis pas du tout la trame originale, hein, des postures. Au début, j'avais une façon très scolaire de pratiquer ça, parce que j'étais dans un processus d'apprentissage. Mais je me suis rendu compte que ce qui me convenait le mieux, c'était de le faire de façon intuitive. Et c'est comme ça que moi, j'y arrive le mieux. Ça me met dans un état méditatif, parce que quand on donne, on est aussi amené dans un état de transe, de par le fait qu'on est plus connecté à une dimension davantage énergétique, davantage subtile, peut-être raffinée de la réalité, et donc le donneur est aussi dans un état modifié de conscience, bien souvent. Et par rapport justement au fait d'avoir les mains sur le corps, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des personnes, si elles ne sont pas à l'aise avec ça, on met les mains à quelques centimètres et puis ça va très bien. Et puis vous voyez, ça peut être progressif. Dans le cas d'une personne, je prenais l'exemple d'abus sexuels, dans le cas d'une personne qui a été vraiment meurtrie dans sa chair, on peut très bien commencer par le faire au-dessus, faire quelques séances au-dessus, puis petit à petit, au fur et à mesure que ça devient sécure, on va poser les mains sur les zones qui sont autour, vous voyez. Et de toute façon, on ne va jamais rien imposer à la personne, c'est la personne qui choisit. Mais en général, ça se passe très très bien, et puis il y a vraiment cet aspect cocon sécurisant. C'est pour ça que pour ce type de trauma-là, moi je recommande vraiment les pratiques comme le Reiki, parce que c'est aidant. Et aussi pour les gens qui sont en dépression très profonde. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, vous avez des gens en dépression profonde, il y a un ralentissement idéomoteur qui se fait. Donc, une consultation, par exemple, d'une heure, c'est déjà très long pour des gens qui sont dans cet état-là. Et moi, j'ai testé avec pas mal de succès, justement, sur des gens en dépression profonde, le Reiki, et j'ai systématiquement les mêmes retours. C'est super, ça me donne de l'énergie, je me sens mieux. Je me sens enveloppée, je me sens en sécurité, je me sens protégée. Et dans cet espace-là, il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer dans l'esprit. C'est comme si on puisait dans son réservoir de force intérieure, en fait. Et c'est un soutien au processus de guérison. Donc très clairement, ça ne fait pas tout, mais ça soutient. Et en ce sens-là, je trouve que c'est une magnifique pratique. Et pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui ont des maladies lourdes, invalidantes, c'est aussi extraordinaire. Ça ne guérit pas, hein, forcément, même si moi, je suis ouverte au miracle, mais la plupart du temps, ça adoucit, en fait. C'est des soins de support. Moi, je suis vraiment pour une médecine intégrative, pour une psychologie intégrative qui prend en charge les différentes approches qui existent, qu'elles soient bien étayées sur le plan scientifique ou pas du tout, ou un peu moins comme le Reiki, et puis de faire un mix de tout ça et que la personne finalement puisse aller vers là où ça lui fait du bien. Parce qu'on sait ce qui nous fait du bien, on le sent, nous. Alors des fois, on peut avoir notre radar un peu brouillé, mais on sent quand quelque chose est aidant, quand quelque chose nous soulage. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est de pas, c'est d'intégrer les différentes approches et de pas forcément rejeter quelque chose, sauf si vraiment bah, ça ne nous fait pas du tout du bien, et puis de faire un cocktail de tout ça. Et ça, c'est une aide à la guérison, en fait, une aide à l'avancée. Pourquoi se limiter? Pourquoi limiter le champ des possibles? C'est dommage. Donc voilà.
Alors, il y a quand même beaucoup de praticiens qui proposent aujourd'hui des soins énergétiques. Mm-hmm. On en entend un peu à toutes les sauces. Comment faire la distinction entre des charlatans, hein, clairement, mm-hmm. qui disent un peu n'importe quoi, et des véritables praticiens?
Ouais. Alors là, je vais peut-être dire quelque chose de politiquement incorrect, mais j'ose. Les charlatans, on parle beaucoup de charlatans dans le milieu des médecines complémentaires, parallèles. Moi, j'aime pas trop le terme de parallèle parce que ça signifie en fait qu'on reste en marge, alors qu'en fait, on peut tout à fait collaborer avec la médecine officielle, avec les soins officiels en fait. Donc, je pense qu'il y a surtout des gens dans le domaine des soins énergétiques qui sont pas forcément formés à la relation d'aide d'une manière qui soit suffisamment adéquate. Donc souvent, ce qu'on retrouve chez ces praticiens de l'énergétique, c'est que il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Quand on est dans des pratiques comme ça, souvent c'est en lien avec la manière dont on investit notre vie spirituelle, et souvent c'est coloré de tout un tas de croyances personnelles, hein, plus ou moins ésotériques, New Age. Souvent c'est un melting pot de plein de trucs. Hein. Ça peut être les archanges, ça peut être, je ne sais pas moi, la Vierge Marie ou autre, enfin, en fonction de la culture, en fonction du vécu de la personne. Et ce n'est pas un souci en soi du moment qu'on ne parasite pas la personne qui vient avec notre propre système de croyance. Et c'est ça l'écueil et c'est ça le danger. Des charlatans, le fait d'être charlatan, ça implique l'idée de vouloir nuire à l'autre. Ça implique l'idée de vouloir utiliser l'autre à des fins personnelles, égotiques ou financières. Et finalement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plutôt des gens incompétents là-dedans qui sont insuffisamment formés à l'accompagnement de personnes. Et c'est ça le danger, en fait, pour moi. C'est plutôt ces gens-là.
Qu'est-ce qui est dangereux, justement, pour les patients ou les clients qui vont voir ces personnes qui ne sont pas bien formées?
Ouais. Alors, typiquement, je vais prendre un peu des exemples qu'on m'a rapportés. Par exemple, une personne qui souffre de cancer, hein, et donc une situation à très forte charge émotionnelle, parce que dans l'inconscient collectif, finalement, le cancer est synonyme de mort. Hein, donc, même si on a des traitements extrêmement efficaces, hein, je veux dire, à l'heure actuelle, les gens, quand on leur pose un diagnostic de cancer, ils sont complètement terrifiés, hein, je veux dire. Donc, ils sont dans une posture de vulnérabilité, ces gens-là. Donc, c'est d'autant plus important qu'ils soient attentifs aux praticiens, aux thérapeutes chez qui ils vont, parce que ça peut faire de sacrés dégâts. Donc moi, les retours que j'ai eus, par exemple, hein, qui sont des retours assez révoltants, mais qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas le propre de la charlatanerie, mais plutôt d'une incompétence, d'un manque de travail sur soi, d'un manque de recul, de discernement. Ça va être, par exemple, de dire à la personne qui a le cancer, « Ah, oui, mais quand on travaille sur soi, on n'a pas le cancer. » Parce qu'on a le cancer parce qu'on a des blocages émotionnels et puis qu'on a des traumas et puis qu'on n'a pas à travailler sur soi. Donc ça, c'est hyper dangereux, c'est faux. Il ne faut pas croire ce genre de choses-là. L'histoire a montré que des saints, hein, des personnes absolument... comment dire, des personnes qui manifestement sont relativement avancées spirituellement, qui ont fait un gros travail sur elles, sont des personnes qui tout d'un coup décèdent d'un cancer. Hein. Il y en a eu, hein. Moi je pense par exemple à certains yogis indiens dont j'ai lu voilà, l'histoire, la biographie. Donc c'est pas du tout représentatif l'un de l'autre. Hein. Vous pouvez être malade d'un cancer ou de je sais pas quelle autre maladie terrible et être quelqu'un qui est absolument équilibré, qui n'a pas forcément de problématiques psychiques qui est massive. Mais c'est vrai que voilà, dans le milieu des approches complémentaires, de la médecine complémentaire, on fait un lien entre le corps et l'esprit. Et on sait aussi, je pense notamment aux travaux de Joyce McDougall, qui est une psychanalyste, que dans certains cas, il y a des situations très troublantes qui laissent à penser qu'un choc psychologique a été le déclencheur de la maladie. Et ça, moi, je le vois beaucoup parce que je travaille en oncologie, donc je côtoie régulièrement des personnes qui souffrent de cancer. Très régulièrement, quand on fait l'historique, la personne d'emblée va me dire « Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu un burn-out, j'ai été harcelée au travail, j'ai eu un divorce, je sais que c'est ça le point de départ de la maladie. » Et là, il faut être attentif, il faut faire attention, parce qu'en fait, les théories psychologisantes du cancer, je parle du cancer parce que voilà, c'est une maladie qui est très connue, hein, ça pourrait être autre chose, mais les théories psychologisantes du cancer ne sont pas du tout validées scientifiquement. Donc, il n'y a rien qui prouve qu'un choc psychologique puisse causer un cancer. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas prouvé que ça n'existe pas. Et le cancer, c'est vraiment plurifactoriel. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un concours de circonstances, l'hérédité, hein, je veux dire le style de vie, peut-être aussi voilà, le stress psychologique d'un trauma, d'un blocage, de quelque chose. Donc, je pense vraiment que c'est plurifactoriel. Mais attention, si vous avez quelqu'un qui vous dit « Mais oh là là, mais il faut aller travailler sur vous pour guérir le cancer », mais fuyez, fuyez. Fuis à l'autre bout de la ville, vraiment. Donc, mais d'une façon plus large, si on sort de cet exemple-là un peu assez précis, quand vous allez voir un thérapeute qui est praticien de ces approches un petit peu plus considérées comme un peu plus ésotériques, mais j'aurais envie de dire pour tous les thérapeutes, hein, pas seulement les thérapeutes complémentaires, mais les thérapeutes aussi du circuit du système de santé classique, c'est de voir comment vous vous sentez avec la personne. Et puis d'être très attentif à son discours. S'il est culpabilisant, si la personne vous parasite avec son système de croyance, c'est-à-dire vous dit par exemple « Ah ben moi la Vierge Marie elle est là, puis elle m'a dit que ça » ou « Ah tel être de lumière me dit que ça », attention, prudence, parce que ça, c'est le système de représentation du thérapeute de la personne. C'est pas forcément le vôtre. Peut-être ça vous parle. Alors, si ça vous parle, bah, vous prenez. Mais si ça vous parle pas, vous mettez de côté. D'où l'intérêt quand même de voir un petit peu l'état d'esprit de la personne. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont très doués dans leur travail. Hein. En Suisse, on a beaucoup de guérisseurs qui travaillent avec les saints. Donc de culture catholique, et puis qui font de l'excellent travail. Si vous n'êtes pas ouvert à ça, ça ne va pas vous convenir, mais peut-être que quelqu'un de très croyant, versé dans le catholicisme, hein, donc c'est la religion, puis qui est ouvert aux saints, puis aux anges, des choses comme ça, bah, il sera très satisfait de ce type de prise en charge, vous voyez. Donc il y a aussi, tous les thérapeutes ne conviennent pas forcément à tout le monde, et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais d'une façon générale, moi je trouve quand même qu'il y a un manque de discernement et de recul chez les praticiens de l'énergétique. Je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux gens. Je vous disais tout à l'heure, moi je ne fais pas d'interprétation sauvage, donc si tout d'un coup j'ai des informations qui viennent, parce que c'est ça, hein, quand on est en état méditatif, en état modifié de conscience, on est beaucoup plus poreux aux informations de l'environnement, donc on va capter plus facilement les informations. Et dans le Reiki, on peut capter pas mal d'informations de ce qui se passe de la personne. Mais ces informations, elles peuvent être très symboliques. Vous voyez, ça peut être par exemple, je ne sais pas, moi, de voir, je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas, un cadenas au niveau du cœur, vous voyez. Donc, bah, on se dit, tiens, un cadenas au niveau du cœur, bah, on interprète ça, ça pourrait être une difficulté à gérer ses émotions ou carrément un blocage au niveau émotionnel. Mais ça, typiquement, moi, ce n'est pas des choses que je dis aux gens si je perçois ça, parce que déjà, je n'ai aucune preuve que c'est juste. Je n'ai pas envie de créer de la confusion chez la personne, donc c'est des choses que je garde pour moi. Et des fois, les gens me disent « qu'est-ce que vous avez vu ?» Puis moi, je dis juste « bah voilà, là, j'ai senti que c'était une zone qui demandait un petit peu plus de travail. Et puis, vous allez voir ce que ça fait de votre côté. » Donc ça, c'est ma façon de travailler, c'est mon éthique, hein, ça correspond bien à ma posture. Mais il y en a d'autres qui peuvent aussi être tout à fait adéquats, du moment qu'on ne montre pas dans un parasitage, encore une fois, du système de représentation de la personne. Il faut pouvoir vraiment discerner nos croyances personnelles en tant que praticien de l'énergétique, qui sont souvent des croyances, ben c'est ça, hein, c'est des croyances, donc de ce que vit la personne, et ne pas l'alourdir de ce que nous, on a à l'intérieur de vous, de nous, en fait. Vous, nous. En Reiki, des fois, ça peut un peu se confondre, en fait. Quand on utilise ces pratiques où on descend dans l'inconscient, ce qui se passe entre le donneur et le receveur, entre le thérapeute et le patient, c'est que souvent les inconscients se synchronisent. On le voit en hypnose. Hein. Donc souvent, il y a des choses assez étonnantes où tout d'un coup, après quand on débriefe la séance, moi je débriefe toujours mes séances, hein, quelles qu'elles soient, après, que ce soit du Reiki ou de l'hypnose, pour voir comment ça s'est passé pour la personne, pour voir ce qu'elle a vécu. Des fois, on constate qu'il y a eu comme une forme d'échange d'informations assez troublant, en fait, où tout d'un coup, bah, je ne sais pas, moi, en guidant la personne en hypnose, je vois tout d'un coup la personne, je ne sais pas, moi, petite fille, qui semble perdue. Puis la personne va me dire, bah, j'ai vécu ça, voilà ce qui est venu en hypnose, vous voyez. Donc ça, c'est un accordage d'inconscient, hein, c'est quelque chose qu'on auquel on est habitué quand on travaille en fait dans ces approches-là. Ça semble assez fou, hein. Moi je trouve ça assez magique, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Mais du coup, ça rend les informations, en fait, le passage des informations d'un côté à l'autre, beaucoup plus fluide. Et du coup, après, il faut faire preuve de discernement là-dedans pour démêler tout ça, vous voyez ? Donc voilà, vigilance, être attentif. Moi, j'encourage les gens vraiment à écouter leur instinct, leur intuition. Est-ce que cette personne, je me sens bien avec? Si oui, parfait, je fais un bout de chemin. Sinon, bah attention. Voilà, un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus.
Alors, c'est passionnant. Et puis, merci justement pour tous ces éclairages de lucidité, de rigueur, de prise de recul. Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance parfois à faire confiance à quelqu'un à 100%. Et puis, en fait, il est en train de nous parasiter avec son propre système de croyance.
Oui.
Il peut y avoir des dégâts colossaux.
Oui, puis si vous êtes une personne en position de vulnérabilité, ce qui est bien souvent le cas quand vous allez voir un de ces thérapeutes de l'énergétique, soit parce que vous avez un problème de santé, hein, je veux dire physique, soit parce que vous êtes en train de traverser un épisode douloureux de votre vie, un deuil, une dépression, peu importe, ou que vous êtes en train de travailler sur certains traumas, vous êtes vulnérable. Donc potentiellement, ça peut faire beaucoup plus de dégâts. Donc il faut être attentif à ça aussi. Regardez comment les gens sont formés, mais il n'y a pas que ça, parce que vous avez des gens qui sont dans le circuit classique, qui sont extrêmement bien formés. Et moi, j'ai entendu des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête, vous voyez. Donc, les diplômes, c'est pas forcément un gage de qualité, de sécurité. C'est une partie de la garantie, je dirais, mais c'est pas tout. Donc ça, c'est d'être attentif, vous voyez, dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez, par exemple, aller chez un énergéticien qui va faire un magnifique travail avec vous, qui est sécurisant, qui est concret, terre à terre, qui ne vous parasite pas avec ses croyances, et puis aller chez un psychologue qui vous raconte n'importe quoi. Et ça, c'est une réalité, et je pense qu'il faut être juste aussi de comment on perçoit tout ça et comment on évalue ça. Vous avez des gens qui font des bêtises un peu partout, et des gens qui font bien le travail un peu partout.
Alors, ce qui est intéressant aussi donc, dans toutes ces pratiques d'état modifié de conscience, c'est qu'on se rend compte qu'on s'est écarté finalement de notre intériorité. Pourquoi quand on s'écarte de notre véritable nature, je ne sais pas si le terme est juste, mais pourquoi quand on s'en éloigne, en fait, ça va nous causer des problèmes dans la vie?
Bah, c'est une vaste question. Moi, je pense qu'on pourrait débattre de ça des heures et des heures, mais je crois que... On vit dans une société qui est extrêmement normée, qui est extrêmement formatée. On est formaté dès l'école. Et je pense sincèrement que l'école, même si c'est une chance d'avoir accès à l'apprentissage, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des endroits sur cette terre où l'éducation est très difficile d'accès, notamment pour les femmes. Donc, je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. On a énormément de chances d'avoir accès au savoir, à la connaissance. Et ça, je pense qu'il faut être reconnaissant pour ça. Il n'empêche que l'école est basée quand même sur un système compétitif et qu'on est drillé dès l'enfance à être en compétition les uns avec les autres. C'est comme ça. Donc, un petit enfant, qu'est-ce qu'il a? Bah, il est très malléable, hein. Il est très poreux, encore une fois, aux apprentissages. Il est très réceptif, il est très suggestible. Donc, quand il rentre dans un système où finalement, de facto, on est en compétition les uns avec les autres, avec ses camarades, même si les enseignants sont remplis de bonnes intentions puis qu'ils essayent de pas mettre cet aspect-là vraiment en avant, c'est quand même l'univers dans lequel on vit. Puis après, ça nous prépare au monde du travail, parce que le monde du travail est ultra compétitif. Ça, déjà, ça nous éloigne de qui on est, parce qu'on est en fait formaté. On est formaté dès l'enfance, on est formaté par notre culture, on est formaté par notre éducation, on est formaté par nos interactions avec les gens autour de nous. On est aussi souvent biaisé par les différentes expériences de vie qu'on fait. Ce qui va être traumatisant pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Donc il y a aussi des dispositions personnelles qui vont nous faire réagir aux événements. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va tout d'un coup, de par une situation traumatique, développer un trouble de la personnalité, puis avoir de la peine à fonctionner dans ses relations, dans ses liens, et une autre qui va pouvoir activer certaines ressources en elle qui vont lui permettre de rester en équilibre et d'avoir des liens sains avec les autres? C'est difficile à dire, hein. On sait qu'il peut y avoir aussi des causes finalement héréditaires, peut-être même génétiques là-dedans. Il y a la question du transgénérationnel aussi qui est passionnante, hein. On hérite quelque chose de nos ancêtres, de toute notre arbre généalogique en fait. Donc je pense vraiment qu'on est comme ça très très jeune, j'aime pas ce terme, hein, même si je l'utilise souvent, mais bon, il faut bien avoir un langage commun pour se comprendre. On est parasité par énormément de choses, par des croyances, par ce qui est juste, par ce qui est faux. Et tout ça, ça nous éloigne de nous-mêmes parce que ce qui est juste pour l'un ou faux pour l'un, c'est pas forcément ce qui est juste ou faux pour nous, vous voyez? C'est ça, donc on est constamment tiré à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que moi j'aime les pratiques de transe, les pratiques d'état modifié de conscience, parce qu'au lieu d'être tiré hors de nous, on revient à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est qui on est, c'est notre substantifique moi, c'est notre être intérieur qui est tellement précieux, c'est qui on est en tant que personne, en tant qu'être humain. Et en fait, on est dans un monde où on est constamment tiré à l'extérieur, à l'école, au travail. On est dans un monde qui va hyper vite. Maintenant, on est aussi dans une génération où on est soumis aux écrans. Donc ça crée aussi des problèmes au niveau de l'attention parce qu'on est constamment en train d'être multitâche. Et du coup, il y a une fragmentation de l'attention qui n'est pas du tout bonne pour notre santé mentale. Donc, je crois vraiment que rien n'est fait pour qu'on puisse en fait être véritablement nous-mêmes dans ce monde. Encore une fois, hein, sans vouloir polariser en tout noir, tout blanc, mais on est quand même conditionné dès le départ à répondre à certains dictats, à adhérer à certaines valeurs qui sont peut-être pas forcément des valeurs et des dictats qui nous correspondraient si on avait fait un pas de côté, un pas en arrière, en se posant vraiment la question. Et c'est ce qu'on constate dans les crises de vie. Vous avez des gens qui suivent des voies toutes tracées et puis qui tout d'un coup à 40 ans se disent « mais je suis tellement pas heureux dans mon métier, j'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait ça parce que je pensais que ça m'amènerait la sécurité, j'ai fait ça parce que, bah, parce qu'il faut faire ça, c'est bien, une famille, des enfants, un travail dans la finance, bah oui, puis vous vous réveillez à 40 ans, puis vous êtes malheureux. Et puis vous vous dites, mais en fait, peut-être que j'avais pas envie d'enfants, même si je les aime de tout mon cœur. Peut-être que j'étais pas fait pour travailler dans la finance. Et puis que tout cet argent, il me sert pas à grand-chose. Et que moi, en fait, j'aimerais plutôt être avec des, je sais pas moi, dans la relation d'aide ou dans la nature, vous voyez. C'est pas pour dire que c'est pas bien, hein, la finance. Et puis je veux dire, c'est pas du tout ça. Mais c'est simplement que, voilà, on a des normes, on a des choses qui sont valorisées. Et puis, si on correspond pas à ça, eh ben, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui cloche chez nous. Et ça, on le voit très fortement avec les réseaux sociaux. Mais c'est une catastrophe, et surtout pour les jeunes, les adolescents. Mais moi, j'entends des trucs qui me chagrinent, mais à un point. Enfin, je veux dire, il faut être comme ça physiquement et pas autrement. Il faut se comporter comme ça et pas autrement. Il faut aimer telle chose et pas autre chose. Mais où est la place pour l'être là-dedans? Où est la place pour notre cœur, pour la spontanéité, pour l'authenticité, en fait? On est dans une société qui est une machine à broyer l'authenticité, j'ai l'impression. Donc, voilà. Je pense qu'après, la vie est souvent bien faite et puis qu'elle nous met face à certaines situations, certaines épreuves qui vont se répéter tant qu'on n'aura pas travaillé dessus. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Jung qui dit « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Donc, on sait qu'on a tendance à répéter des choses. Donc, à un moment donné, la vie, elle nous met aussi face à nous-mêmes. Et même si c'est douloureux, et c'est justement souvent ces crises hein, qui sont tellement féconde d'autres choses, de renouveau, de reliance à nous-mêmes, de retrouvailles avec nous-mêmes, la vie nous place dans des situations comme ça pour nous rappeler à nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière. Et je crois que c'est vraiment important d'apprendre à s'honorer, à s'écouter, et puis à se distancer, en fait, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'on croit qu'il faut faire ou pas. Alors bon, quand on dit la société... fait ci, fait ça, dit ci, dit pas ça. C'est très nébuleux. Hein. Puis finalement, si on fait un petit travail de déconstruction, on se rend bien compte qu'on est soumis à des pressions sociales, mais qu'on n'est pas du tout obligé d'y adhérer. Puis après, ben voilà, c'est un travail, probablement que c'est le travail d'une vie aussi. Et l'idée, c'est pas de basculer dans l'extrême inverse. Hein. Tout est affaire d'équilibre. Si vous êtes complètement déconnecté de la société dans laquelle vous vivez, vous ne pouvez pas fonctionner, socialement parlant. Donc, c'est pas non plus le but. Mais entre être complètement conditionné et loin de soi, et puis être avec soi et fonctionner avec le monde tel qu'il est, hein, et ben, je pense qu'il y a matière à travailler. Il y a matière à faire quelque chose de constructif. Donc, moi, c'est un petit peu aussi comme ça que je vois la thérapie, finalement. C'est un retour vers soi, un rappel à soi, en fait, et une possibilité, enfin, se donner les moyens d'être heureux, épanoui. Parce que je pense qu'on n'est pas sur Terre pour se punir. Et puis que même si on vit tous des épreuves, qu'elles font partie de la vie, il y a beaucoup de souffrances qu'on se rajoute, dont on n'aurait en fait pas du tout besoin, dont on pourrait se passer. Et je trouve que le travail thérapeutique, c'est aussi un travail, justement, de débroussaillage, de discernement par rapport à ces choses-là. De quoi est-ce qu'on a envie de s'alléger? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est aussi pour ça que, voilà, quand on a tout d'un coup une maladie grave, ou en tout cas qui est sévère, qui nous tombe dessus, bah, tout de suite, on revient à l'essentiel. On se dit, mais en fait, c'est l'occasion justement de se poser les bonnes questions. Et on voit, les gens se posent les bonnes questions la plupart du temps quand ils traversent tout d'un coup une maladie où il y a le spectre de la mort qui plane. Et ils se disent, mais tiens, mais en fait, est-ce que je vis vraiment la vie qui me convient? Et vous voyez, le spectre de la mort, j'en parle, on est dans une société aussi, et ça je trouve vraiment dommageable, où la mort est omniprésente, partout. La mort est partout, on la montre comme ça, sans tabou, on est soumis à des images absolument abominables, hein, de guerre ou d'autres choses, et puis en fait, elle est paradoxalement, elle est extrêmement taboue. On n'éduque pas les gens sur cette question de la mort, mais la mort, c'est une autre face de la vie, et c'est notre destination à tous. Et d'avoir cette idée de la mort comme perspective, ça permet aussi, c'est peut-être un peu dur, hein, ce que je dis, donc si jamais pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas à l'aise avec ça, mettez sur pause, ou enfin voilà, l'idée c'est pas d'être trop bousculé, mais je pense que c'est important de parler aussi de la mort et de ce qu'elle représente et du potentiel qu'elle a de nous ramener à ce qui est essentiel pour nous. Est-ce que vraiment, quand vous serez sur votre lit de mort ou quand la mort viendra vous chercher, est-ce que ça aurait été comme ça important d'avoir amassé un compte en banque, de vous être payé une Rolex pour bien montrer que vous avez réussi votre vie? Je crois pas. Quand on est face à la mort ou quand la mort vient nous prendre, on est sans artifice, on est juste nous, dans notre substantifique moelle, j'aime bien ce terme, et on fait un peu le bilan, si on en a l'occasion, en fonction des circonstances de notre départ, en fait, de cette terre. Et ça, je trouve important aussi de parler de ce sujet-là. Parce qu'il est aussi en lien avec ce conditionnement. On nous conditionne finalement avec ce spectre de la mort qui est là. Moi, je suis effarée quand je vois des gens qui ont passé 80 ans et qui ont tout d'un coup un cancer, que je vois en milieu hospitalier, puis que quand on parle de cette question de la finitude, parce qu'à un moment donné, on en parle, parce que c'est source d'angoisse, qui me disent « Ah, mais moi, j'y ai jamais pensé. Ah bon, d'accord, mais comment c'est possible de traverser une existence entière sans penser à ça ?» Vous voyez, là, c'est un déni massif. Donc, la personne, elle a fait ce qu'elle a pu au cours de sa vie, mais c'est pas forcément aidant, en fait, parce qu'après, il y a une angoisse qui est tellement forte comme ça que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc voilà, moi, je pense que cette thématique de la mort, elle est très intéressante à ouvrir, à explorer, puis qu'on peut le faire en mettant des sécurités, peut-être en remaniement un peu ce concept-là dans la représentation commune, en ouvrant sur d'autres choses. Et typiquement, c'est ce que proposent finalement les récits d'expériences de mort imminente. Moi, j'en parle parce que toutes ces choses-là, ça me passionne, et c'est ce qui est à l'origine de ma vocation de psychologue, le travail sur la conscience, parce que en fait, c'est, depuis le début de notre entretien, on parle que de ça, du travail sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Comment se connecter à cette conscience, comment prendre conscience de notre conscience finalement, et qu'est-ce qu'on peut faire de ça, qu'est-ce que ça peut nous amener de positif dans notre vie, de constructif.
Est-ce que vous avez l'impression que finalement le travail d'une vie quelque part, c'est de ramener le plus à la conscience ce qui est inconscient pour faire des choix plus lucides et plus qui nous font plus de bien, on va dire?
Moi, je le vois un peu comme ça, ouais. Moi, je le vois comme ça, mais après, voilà, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Je pense qu'il n'y a rien qui doit être forcé, vous voyez. Suivant les trajectoires de vie, suivant les parcours de vie, ce n'est pas toujours possible de ramener aux consciences ce qui est inconscient, parce que ça viendrait complètement chambouler le fonctionnement de la personne, ça viendrait la déstructurer, la déstabiliser à un point qui serait mauvais pour elle. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une voie. Je pense que c'est, dans tous les cas, intéressant de se questionner, de rester constamment dans le questionnement, dans la remise en question. Mais se remettre en question, ça ne veut pas dire douter de soi à outrance. Ça veut dire rester ouvert à soi, au monde, à nos relations, à ce qui se passe dans la vie, pour pouvoir justement bénéficier des expériences qu'on va vivre. Hein. Chacun va vivre ses propres expériences. Et je crois que c'est vraiment important d'être à l'écoute, en fait, des expériences qu'on vit, de ce qu'on peut y apprendre, de l'enseignement, parce que on a souvent tendance aussi, c'est vrai qu'on vit dans un monde très duel, hein, on va parler du négatif, du positif, mais quand on prend un petit peu de recul, moi, c'est une croyance personnelle, hein, évidemment, mais je crois véritablement que rien n'est fondamentalement négatif. Ça peut être horrible à vivre, mais je pense qu'il y a un sens plus vaste derrière tout ça, un sens peut-être plus transpersonnel, vous voyez, bien sûr qu'en tant que personne, on n'a pas envie de vivre des choses horribles, mais dans une dimension plus vaste, on pourrait appeler ça l'âme ou la conscience avec un grand C, qui ne nous dit pas que cette part de nous a choisi d'expérimenter ça pour nous offrir l'opportunité d'apprendre quelque chose? Parce que la souffrance, quoi qu'on en dise, c'est un excellent vecteur d'apprentissage. Alors, ce n'est pas le seul, mais c'est bien souvent celui qui va être présenté à nous pour qu'on évolue. Hein. On le voit, ça, je veux dire, c'est quelque chose d'assez typique.
On n'évolue pas sans souffrir, malheureusement. La plupart du temps, c'est des déclencheurs.
Bah oui, si on observe un petit peu le parcours des gens autour de nous, ou notre propre parcours, on se rend bien compte que la souffrance est riche en apprentissage. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans, parce qu'il y a des tas de façons d'apprendre. On peut aussi apprendre dans la joie. Et je pense qu'il faut aussi apporter ce message-là, qu'on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Mais on sait que voilà, c'est riche en potentiel d'apprentissage, la souffrance, mais qu'il n'y a pas que ça. Et d'où l'intérêt aussi justement d'être à l'écoute de soi avant de souffrir, vous voyez. Si vous êtes dans un travail qui vous plombe ou dans un environnement toxique, hein, admettons le monde du travail, souvent c'est des environnements qui sont très toxiques et c'est pas forcément parce que les gens sont méchants, ça c'est très manichéen ce que je dis, hein, mais vous voyez un peu l'idée, mais simplement parce qu'il y a une atmosphère, il y a un système de compétition qui est mis en place et puis on est pris là-dedans. Mais si vous êtes là-dedans, plutôt que d'attendre, de ne plus pouvoir sortir de votre lit parce que vous êtes dans un burn-out conséquent, eh ben peut-être que l'idée, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi? Est-ce que je fais peut-être un pas de côté? Je prends du temps, puis je regarde s'il n'y a pas peut-être quelque chose à faire pour que je me sorte de ça. » Vous voyez? Donc, petit à petit, je pense qu'avec l'expérience, on peut aussi être attentif à ce qui peut potentiellement nous faire souffrir. On peut avoir un peu un coup d'avance sur la vie, puis se dire « Ok, ça, c'est une situation, je ne vais peut-être pas mettre les pieds dedans. » Je parle notamment, par exemple, c'est assez typique dans le domaine sentimental, quand vous tombez constamment sur des partenaires qui vous font vivre de la maltraitance ou en tout cas des choses qui ne sont pas plaisantes. Au bout d'un moment, si vous êtes attentif, vous allez repérer des drapeaux rouges qui sont souvent très visibles, c'est juste qu'on ne veut pas les voir. Hein. Et puis bah, peut-être qu'au bout du, je ne sais pas moi, cinquième partenaire, vous direz « Bon, là, il y a un immense drapeau rouge, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mettre les pieds là-dedans ou pas ?» Et puis ça va être de se dire « Bah non, là, cette fois, j'ai envie de vivre autre chose, donc je ne vais pas souffrir pour rien, en fait, c'est ça. » Donc apprendre aussi de nos expériences Merci. Douloureuses. Et pas parce que c'est bien puis qu'il faut faire comme ça, mais parce que c'est plus aidant pour nous et que c'est le chemin de l'épanouissement personnel, c'est ça. Hein. Donc, je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien hein, d'apprendre de ses expériences ou pas. C'est pas connoter ça de façon positive ou négative. Moi, j'aime bien parler en termes de ce qui est aidant et non aidant. Je trouve que il y a moins cette pression du faire juste ou faux, d'avancer ou de pas avancer. Qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui nous porte? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et qu'est-ce qui ne nous aide pas, qu'est-ce qui ne nous sert plus, et puis ensuite de faire notre choix.
Finalement, quand je vous écoute, on a l'impression qu'on a quelque part toutes les réponses en nous, il faut mm-hmm. juste plus s'écouter, plus être en phase avec notre intériorité, et donc ces états modifiés de conscience peuvent nous aider à ça, parce Exactement. Que ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on a été extrêmement formaté par la famille, la société, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus, qui ne savent pas qui ils sont.
Bien sûr.
Donc ça peut être une voie pour aller trouver qui on est.
Absolument.
Avec ces états. Et question subsidiaire, est-ce que pour vous, l'identité de ce que nous sommes est là quand on est? Est-ce que c'est quelque chose pour vous de fixe ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui évolue? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouh là là, ça c'est une immense question aussi. Hein. Alors, ma croyance personnelle, c'est qu'on arrive dans ce monde et qu'on n'est pas vierge de toute chose. Mais ça, c'est ma croyance à moi. Donc voilà, pour les gens qui écoutent, mettez vos filtres. Parce que voilà, après des années d'expérience avec la conscience, d'études aussi, de différents témoignages. Donc voilà, il y a mes propres expériences, il y a les témoignages que j'ai lus qui se recoupent avec certaines de mes expériences. Je pense en fait qu'on est des voyageurs, en fait, qu'on est de passage sur cette terre et qu'on arrive ici avec déjà tout un tas d'expériences, peut-être sur terre, dans une autre vie ou dans d'autres univers. Encore une fois, c'est une croyance personnelle, hein, j'énonce pas du tout ça comme une vérité. Et que donc on vient sur terre comme pour apprendre des choses, pour grandir, pour évoluer en conscience. Pour moi, la terre, le fait de vivre ici-bas, c'est vraiment une école. Et ça m'aide beaucoup de voir les choses comme ça, parce que ça m'aide à prendre une certaine forme de hauteur quand je vis des choses difficiles ou quand je vois des gens qui vivent des choses absolument abominables, parce que j'en vois quand même souvent. Et c'est vrai que c'est très aidant pour moi d'avoir cette vision-là des choses, parce que si je ne l'avais pas, je ne pense pas forcément que je ferais ce travail-là. Je ne pense pas que j'aurais les ressources pour pouvoir faire ce travail-là et être constamment confrontée à la souffrance et à l'impuissance que génère cette souffrance, en fait. Parce qu'en tant que thérapeute accompagnant, on est très souvent mis en impuissance, parce que, vous l'avez dit vous-même, on est les seuls détenteurs, finalement, des réponses à nos questions. Nous seuls pouvons savoir ce qui est juste pour nous. Parce que on est avec nous-mêmes, en fait, du début à la fin de notre vie sur Terre. La personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est quand même avec vous. Et pour répondre un peu plus précisément à cette question de l'identité, moi, je pense que dans notre substantifique moelle, encore une fois, on reste identique, mais qu'au niveau des apprentissages, au niveau des comportements, au niveau de notre vision du monde, je pense que c'est soumis vraiment à évolution, en fait. Donc, il y a une part de nous qui, pour moi, reste identique, inaltérable, en fait, de vie en vie, je dirais. Et puis après, il y a la personnalité, en fait, qui peut, au cours d'une même vie, pour moi, évoluer. Mais vous voyez, moi, par exemple, ben voilà, je sais que mon identité, c'est Sarah, je suis une femme de 40 ans, je suis psychologue, je suis passionnée par la conscience, mais ça fait des années que je ne me réduis pas à ça. Je pense que je suis autre chose, quelque chose de plus vaste, et en me connectant à ces... en expérimentant ces états modifiés de conscience, je vis ce quelque chose de plus vaste. Et c'est d'ailleurs ces vécus-là qui m'ont très vite fait comprendre que j'étais pas juste Sarah, jeune femme de 40 ans ou plus jeune à l'époque, qui a tel attribut, telle passion, tel physique, etc. Et ça, c'est une posture qui m'apporte énormément de liberté, parce que ça me permet d'être ouverte au champ des possibles. Et même si je ne le formule pas en tant que telle quand je fais mes accompagnements, parce que moi j'accompagne toutes sortes de personnes, hein, y en a des tas qui ne sont pas du tout intéressés par mes trucs un peu perchés, et puis moi je m'adapte, je pense que c'est le propre du thérapeute de s'adapter à la personne avec qui il y a un lien qui se crée, un lien thérapeutique, mais il y en a d'autres avec qui on ouvre sur ces sujets-là. Mais le fait d'avoir ce vécu, cette expérience-là, ce système de représentation, m'aide en fait à ne pas figer les gens dans un destin, et puis à laisser le champ des possibles, de leurs possibles ouverts. Et je crois véritablement que quand on contacte son intériorité, on revient à la maison, notre être intérieur, qui on est nous-mêmes en fait. Et je pense que oui, ça a énormément de sens de faire ce travail-là. Et qu'on peut évoluer, qu'on peut bouger, et qu'on peut passer de quelqu'un peut-être de maladivement timide à quelqu'un qui va donner des conférences. C'est d'ailleurs très souvent connu, hein, les grands conférenciers, c'était des gens qui étaient maladivement timides. Et souvent, vous savez, quand on a un aspect de quelque chose qui est très marqué, on a l'autre aspect qui est très fort en nous, mais qui est juste... mis au second plan. Et si on va explorer en soi et qu'on se connecte à cette autre facette, cette autre polarité, par exemple timidité, extraversion, être à l'aise avec autrui, eh ben on arrive à recréer une forme d'harmonie entre ces deux pôles, en fait. Donc oui, moi je pense véritablement qu'on évolue tout en restant identique à la fois. C'est le paradoxe de la vie, comme tant d'autres.
Et pour terminer, dans votre parcours personnel, qu'est-ce qui vous a justement le plus aidé? Qu'est-ce que vous avez appris sur la vie? Vous nous en parlez là. Et qu'est-ce que vous pouvez du coup transmettre aux personnes qui nous regardent, qui peuvent être dans des moments de vie difficiles où elles se posent des questions, où elles sont perdues, pour s'accrocher à quelque chose qui les aide et les fasse évoluer?
Disons qu'il y a beaucoup de choses. Après, comme je l'ai un petit peu expliqué avant, moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'investir ma vie spirituelle. Je suis en quête de sens depuis que je suis enfant, et c'est ça qui m'a aidée. C'est le cheminement spirituel, le développement de la conscience, le fait de devenir de plus en plus consciente de moi et du monde qui m'entoure, c'est ça, en fait, le sens de ma vie. C'est mon voyage à moi, c'est ce que j'ai envie de véhiculer, même si je ne vais pas le faire directement de cette manière-là. Ce qui m'aide, en fait, c'est de voir les choses comme ça, ça nous connecte à des ressources de résilience absolument extraordinaire. Et je crois vraiment que l'être humain, il a des capacités, des ressources insoupçonnées, et que s'il se connecte à lui-même, il peut traverser n'importe quoi. Et je pense que la vie, elle a le sens qu'on lui donne, et le sens qu'on lui donne, c'est très personnel. Il va être conditionné justement par notre culture, par notre éducation, par les expériences qu'on a faites, par qui l'on est. Et puis après, je pense véritablement qu'elle a un sens plus vaste, comme je disais tout à l'heure, plus transpersonnel, et qu'on est là pour apprendre des choses. Donc quand il nous arrive des choses difficiles, c'est pas contre nous, même si bien sûr en tant qu'être humain, quand il nous arrive quelque chose de difficile, c'est horrible, hein, mais moi je fais pas exception, c'est exactement pareil pour moi. En ce sens-là, on est tous égaux face à la souffrance, hein. Enfin, en tout cas, on est tous susceptibles de vivre des choses difficiles. mais de me connecter à quelque chose justement qui est plus vaste, qui dépasse le simple univers matériel, le monde dans lequel on vit, qui est empreint de beauté, de magie, d'ouverture comme ça. Moi, ça m'aide énormément. Et les états modifiés de conscience sont forcément allés dans quelque chose d'extraordinaire, parce que là, finalement, on bascule un petit peu sur des états modifiés de conscience non ordinaires, hein, les expériences de mort imminente, on appelle ça des états modifiés de conscience non ordinaires, parce que ce n'est pas quelque chose d'habituel, vous voyez, il y a aussi les expériences de sortir du corps, les expériences de transcendance, des choses comme ça. C'est pas... Tout le monde peut potentiellement accéder à ça, mais ce n'est pas non plus tout le monde qui va vivre de telles expériences au cours de sa vie. Par contre, vivre des séances d'hypnose, des séances de sophrologie, du Reiki, ou simplement par l'art aussi, hein, je veux dire se connecter par la peinture, la sculpture, la danse, toutes ces choses qui nous permettent de revenir à nous-mêmes, hein, et puis chacun doit trouver ce qui lui convient. Moi, c'est ces pratiques-là. Une personne, ça peut être d'aller courir, par exemple, hein, je veux dire, et puis de le faire en conscience, et puis d'avoir tout d'un coup un flot d'informations qui viennent, qui surgissent par cette pratique-là. Je pense que toutes ces choses-là, elles nous aident à garder le cap, en fait. Et puis qu'il ne faut pas renoncer parce que la lumière est au bout du tunnel. Et puis, être ouvert à demander de l'aide aussi. Parce que souvent, on est très isolé dans notre souffrance. Et puis, parfois, il y a des gens qui peuvent nous aider, tout comme nous, on peut aider d'autres personnes. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aide de la vie quotidienne de tous les jours. Faire un sourire à quelqu'un. Un gentil mot, juste être présent comme ça, attentif, c'est des aides qui sont extraordinaires, et puis je pense qu'il faut être reconnaissant de ça, et puis aussi être dans l'état d'esprit de pouvoir être ouvert à recevoir ça. Voilà, je ne sais pas si je suis claire.
Tout à fait, très claire.
Ça va alors.
Merci voilà. Beaucoup Sarah.
Ben, merci à vous, merci mille fois Carole.